Europe 1. Olivier Delacroix accompagne vos nuits.
23h41 et vous êtes sur Europe 1, comme vous venez de l'entendre. Le temps d'accueillir Martine. Bonsoir Martine.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir, comment allez-vous Martine ?
Très bien, depuis que j'ai parlé à Natacha.
Ah,
un vrai amour Natacha. avec une voix si reposante.
Oui.
Elle doit être très jolie.
Elle est très jolie elle a pris 19 ans la semaine dernière, donc tout baigne pour Natacha.
Oh, super. En tout cas, elle s'est passée de la tempête au Beaufort.
Mais écoutez, c'est pour cela que toutes les personnes qui travaillent dans cette équipe sont charmantes, je dirais.
Oui. Alors,
je
dis pas même Florian, autres, hein, tout à l'heure, c'était Florian, à mon avis.
Florian est très gentil et charmant aussi.
Les amours, super. En tout cas, ça nous met en confiance et c'est très important.
Alors, qu'est-ce qui vous amène, ma chère ?
Eh ben voilà, c'est une histoire compliquée, c'était la tempête avant, quand j'ai écrit mon mail sur Europe 1.
Oui.
Ensuite, j'ai fait, entre-temps je parle allemand, c'est horrible, j'ai fait retour arrière et je me suis dit, non, c'est trop compliqué. Et puis après, je me suis dit, non, c'est complètement idiot, il faut continuer l'histoire, quoi. C'est maintenant ou jamais.
Parce que au moment où vous écrivez donc ce mail à Europe 1, c'est la tempête. Pourquoi est-ce la tempête ?
Bah, c'était un cri. D'abord parce que j'écoute vos émissions depuis très longtemps et que c'était un cri du cœur et j'ai envie de l'écrire, point. Oui. Et que tout le monde le sache, point.
D'accord.
Et d'un autre côté, après, je me suis dit, oh zut. Et j'ai fait l'erreur d'en parler à ma sœur.
Oui.
Et là, il y avait un petit peu de pression. Je me suis dit, oh zut, non, c'est pas bon. Donc, retour à la case zéro.
Votre sœur vous a déconseillé de parler ?
Ben, c'est-à-dire qu'elle m'a dit, parle pour toi et pas pour les autres, quoi.
D'accord, bah oui, d'accord, ok.
Bon, ce que j'ai compris. Mm-hmm. Et puis finalement, elle n'était pas si en colère que ça après qu'on ait parlé ensemble.
Oui.
Bon, en fait, le but de mon
appel... Vous savez, pardonnez-moi de vous interrompre, mais oui, par expérience, et je le dis pour vous tous, chers amis qui écoutez la Libre Antenne, depuis 13 ans que je recueille la parole des uns et des autres, je conseille à celles et ceux qui veulent témoigner de ne pas en parler à quelqu'un d'autre.
Oui, je vais vous
expliquer pourquoi. Parce que, en fait, si vous en parlez à quelqu'un d'autre, il trouvera toujours, alors pas toujours, mais très très souvent, hein, je vous jure, j'ai dû souvent batailler pour expliquer aux gens que lorsqu'on témoigne, c'est un engagement très personnel. Cette décision, elle doit venir de l'intérieur et être quelque chose qui soit très personnel, dont on n'a pas besoin de partager. Vous voyez, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas ?
Oui, c'est clair.
Parce que quand ça part comme ça, on n'est pas encore prêt. Parce que aussi, les gens à qui vous en parlez peuvent toujours dire « Ouh là là, mais attention à ceci, attention à cela ». Lorsqu'on est pris de cette envie, c'est que il y a généralement, et je vous parle par expérience encore, c'est que je pense qu'il est venu le temps justement d'expulser quelque chose, de parler, parce qu'on a quelque chose à déposer, on a quelque chose à expliquer, et c'est important.
C'est personnel.
Exactement.
Oui, absolument, je suis tout à fait d'accord. Donc ça, c'était une expérience, c'est pas trop grave. Une expérience de plus, on apprend toujours pas les expériences. C'est pas grave. Donc, je commence l'histoire un peu parce que j'ai essayé de faire une espèce de synthèse, parce que sinon, j'en sors pas.
Oui.
Commençons l'histoire par la chanson de Barbara, L'Aigle Noir, ça vous dit quelque chose.
Oui, bien sûr.
Donc, c'est comme ça que l'histoire commence, d'un abus sexuel paternel. Très tôt, bon bref, on sait jamais quand ça commence, et ça c'est le problème, parce qu'à partir du moment où ça commence, on est amnésique, dans la minute.
Alors, vous employez cette image de l'aigle noir, mais je ne suis pas sûr que cela parle à tout le monde. Ce que vous voulez dire, en gros, c'est que votre père a abusé de vous.
Ouais, exactement, oui.
D'accord. À quel âge, en fait ?
J'ai appris très tard, par l'analyse de la chanson de Barbara, qu'elle aussi, évidemment.
Bien sûr.
Je ne savais jamais pourquoi cette chanson me parlait très intimement, sans savoir de quoi il retournait.
Et je pense que beaucoup, vous savez, connaissent cette chanson et n'ont pas obligatoirement... ne sont pas obligatoirement rentrés dans le texte pour saisir le sens que Barbara a voulu donner. C'est assez subtil en plus, hein, ce qu'elle écrit.
Oui, très subtil, très subtil.
Mais très beau, d'ailleurs. Mais, oui, c'est très beau. C'est très sans beau. Doute la chanson parlant de cette problématique qui soit la plus puissante.
En tout cas. Ça, absolument, oui, tout à fait. Donc, alors, le problème, c'est le début de l'amnésie dans la vie, quoi, d'une petite enfant. Moi, je trouve ça horrible, hein, quoi. Alors, à ce moment-là, on commence à avoir une stratégie de survie. Moi, ça a été d'être le petit clown de la famille.
Oui.
Original, toujours me déguisant, prenant un autre rôle, être toujours quelqu'un d'autre, en fait. J'avais l'impression que j'ai commencé mon film.
Vous avez commencé votre film, c'est-à-dire ?
Ben, j'ai commencé la régie de mon film, de ma vie, c'est-à-dire d'une deuxième personne, pas celle que j'aurais dû être, quoi. C'est ça le problème.
Oui, d'accord.
Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, vous avez joué un rôle.
Ben, j'ai joué un rôle dès le début en me disant, bon, ok, je fais rire tout le monde, je suis originale, voilà, je sais pas, mais c'était inconscient, évidemment.
Hein. Oui, oui.
Donc, voilà, et bon, ça, je parle de la phase enfant.
Oui.
La question qui me travaille, c'est pourquoi est-ce qu'un enfant accepte de retourner à son prédateur ? Ça, c'est vraiment un problème. Parce qu'en fait, voilà, le prédateur essaie de... Enfin, le prédateur, le père, quoi, ou n'importe quoi. Enfin, non, c'est le père, à l'occurrence. Comment peut-on, sachant que c'est pas bien, qu'il y a quelque chose qui colle pas, parce que ça, on le sent intuitivement.
Oui, oui.
Comment est-il possible qu'on y retourne, quoi ? Et la deuxième question...
Est-ce que le terme « y retourner », à votre avis, est bien choisi ? Parce que... Est-ce que vous aviez le choix, surtout, en fait ?
Bah, c'est la question, ça, je suis pas sûre.
Mais non.
Alors, c'est là que je me demande aussi, et je pense que ça doit être là, pour beaucoup de femmes qui ont été donc abusées sexuellement par leur père, c'était la question de savoir, est-ce qu'on y allait par plaisir, finalement ?
Mm-hmm.
Est-ce qu'on y trouvait un plaisir ? Et ça, c'est pas clair dans ma tête jusqu'à aujourd'hui. Hein.
D'accord, ça n'est pas clair dans votre tête. Mais si je peux me permettre, c'est que sur ce point précis réside la grande importance de ce sujet, parce que qu'il y ait plaisir ou non, il y a une prise de pouvoir sur l'enfant qui, vous l'avez dit instinctivement, sait qu'il se passe quelque chose qui est anormal,
bien sûr.
Mais qui ne sait pas se l'expliquer.
Bien sûr.
Et l'adulte, qui était votre père, lui savait très bien ce qui se passait.
Ben oui.
Et le plaisir dans tout ça, il a finalement bien peu d'importance. Vous voyez, et cette question, je sais qu'elle peut vous hanter. Mais ce que je pense, hein, pour vous, c'est que ça n'a pas d'importance que vous ayez ou non pris du plaisir, parce que tout était biaisé dans cette relation.
Oui, c'est clair. Oui,
et un enfant, en fait, à partir du moment où on tord dès le début cette flamme, qui est normalement l'amour qu'un enfant a pour son père, voilà, ça peut se traduire par du plaisir ou non, mais finalement, ça n'est qu'un détail dans l'horreur, de ce qui est fait, en fait, par cet adulte.
Alors, je me demande pourquoi le fait de retourner, ce que je voulais dire, est-ce qu'on a besoin de cet amour paternel absolument, de reconnaissance ? Est-ce qu'un enfant ne peut pas vivre sans cet amour, peu importe quelle forme il a ? Est-ce comme ça ? Je ne sais pas, moi.
Un enfant peut vivre tout un tas de situations, en fait. Mais encore une fois, je pense que le père, votre père, tenait tout, les tenants et les aboutissants. En fait, vous étiez obligé, vous étiez contrainte de l'aimer, votre père. Vous n'aviez pas le choix encore sur ce point.
C'est de la folie, ça.
Non ? Peut-être je m'avance un peu trop.
Une autre question.
Oui.
Est-ce que le prédateur, enfin le père, comment peut-on devenir ça ? Est-ce que lui-même a subi les mêmes choses ? Est-ce que ça se répète ? C'est comment ? D'où ça vient tout ça, quoi ?
C'est fort possible. D'ailleurs, c'est souvent la conséquence de violence. C'est souvent la conséquence de violence vécue dans le jeune âge. Après, je vous parle de maladie.
Oui, c'est une maladie.
quelqu'un, qui, ouais. quelqu'un qui commet ce genre de choses est malade. Il est malade, il est...
Oui, mais ça voudrait dire qu'éventuellement, s'il l'a vécu éventuellement par quelqu'un d'autre de sa famille, il est d'un côté un prédateur, mais d'un autre côté une victime aussi.
Bien évidemment, il est une victime, mais ça n'est pas à vous d'en subir les conséquences.
Vous voyez.
Et donc, du coup, je veux dire, dans ce qui vous est arrivé, l'adulte était votre père, le manipulateur était votre père, celui qui vous faisait croire qu'il vous aimait était votre père. En tout cas, il vous aimait. Celui qui vous faisait croire qu'il vous aimait bien était votre père, alors qu'il vous aimait très mal. Après, tout ce que vous avez pu ressentir par rapport à cet homme, c'est ce qu'un enfant ressent normalement pour son père ou sa mère, à partir du moment où, bien évidemment, les choses, les relations sont bonnes, hormis, bien évidemment, ce type de choses. Ce père, il était gentil avec vous, je suppose. Il était
avenant, très intelligent, très reconnu et tout. Mais heureusement, il n'était pas là trop souvent, Dieu merci.
Oui. Et que vous disait-il ? Je suis toujours curieux de...
Que me disait-il ?
Oui, des stratégies mises en place par ces prédateurs. Il vous disait quoi, en fait, après ?
En fait, ce qui m'a frappé, c'est qu'il a dit « Je t'apprends la vie d'amour pour la suite. »
Oui, un grand classique.
Un grand classique, ok, ça, je ne savais pas.
Ben, un grand classique.
Donc, c'est-à-dire que
je vais t'éduquer,
je suis ton éducateur dans ce système, quoi.
Mais ça, c'est quand je vous dis un grand classique, c'est j'ai l'année dernière tourné avec une jeune femme, Ludivine. Je sais qu'elle nous écoute souvent et qui était une grande championne, qui est une grande championne de roller, vous savez, de roller, voilà, de patin à roulette, donc, le jour de ses 12 ans, a été violé par son entraîneur qui lui a dit « Je vais te faire un cadeau magnifique. »
Ah ouais.
Vous voyez ? Le cadeau...
La question du viol, est-ce que le viol commence par la pénétration ou est-ce que le viol commence par les attouchements, quoi ?
Viol, on va s'en remettre à la définition. La définition du viol, c'est que toute pénétration est un viol.
D'accord, mais s'il n'y avait pas eu de pénétration, ça s'appelle comment ?
Ça s'appelle des attouchements et c'est un abus. Ce sont c'est un abus sexuel, qu'il arrive. La grande différence, c'est que un viol, il porte bien son nom. C'est toute pénétration, le savez. Ouais. Est-ce que votre père vous a violé ?
Non, je dirais que non. Mais en fait, avec l'amnésie, on ne sait rien, quoi.
Mais toutes ces questions que vous vous posez autour du plaisir, donc c'était des attouchements.
Oui, c'était. Ouais. Alors, c'est la raison pour laquelle. Je continue mon histoire. Ça, c'était la période enfant. Mais c'est très drôle parce que dans mon enfance, il y a une photo où j'ai 3 ans, donc je ne sais pas l'âge. C'est ça qui est terrible, de ne pas savoir où commence l'histoire, où se termine l'histoire. Mais l'histoire où elle se termine, je le sais, parce que c'est moi qui l'ai terminée, avec une certaine force. Mais je suis sûre que j'étais toujours avec ma petite valise rouge, toujours prête à partir. Donc déjà, c'était un signe.
Lorsque vous évoquiez votre sœur tout à l'heure, vous avez partagé cela ensemble, visiblement.
J'aimerais pas trop en parler non plus.
Non, mais
c'est vrai que on en parle.
C'était ma question, sans parler d'elle.
Oui, on en parle.
Vous en parlez, donc ça n'est pas un secret. Vous étiez deux filles ou plus ?
Deux filles et un frère.
D'accord.
Deux filles et un garçon.
Et le garçon a-t-il
été... Tous les trois dans le même sac.
D'accord.
Ouais. Donc, voilà quoi.
Vous voyez combien il était tordu, ce père.
Complet, ça c'est clair,
C'est quelque chose, vous voyez, qui m'échappe complètement, mais c'est ce pourquoi, c'est une maladie. Les gens qui font ça sont malades.
Bah oui, c'est malade, mais d'où vient cette maladie, quoi ? C'est ce que je voudrais savoir, quoi. Bah,
comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a souvent des violences sexuelles. Vous savez, aujourd'hui, vous seriez effaré de connaître les chiffres qui traduisent les violences sexuelles faites aux enfants en France.
Oui, c'est de la
parce
folie.
Que ça reste un tabou. Mmh. Et je peux vous dire que il y a bon nombre de mères, parce que souvent, alors il y a quelques mères hein, qui abusent leurs enfants, mais voilà, dans un grand pourcentage, ce sont des hommes.
Ouais.
Si vous connaissiez le combat même de ces mères pour faire reconnaître ces abus sexuels, vous seriez effaré. J'ai entendu il y a un réel problème en France par rapport à tout cela.
Mais est-ce la France, parce que finalement c'est très drôle, quand il y a eu l'ouverture des débats sur, disons à la télévision et tout ça, sur tout ça, hein, il y a eu, c'était dans, il y a peut-être 20 ans, hein, on commence à parler de tout et de rien dans ces espèces de d'émissions de télévision là où tous les tabous tombaient, on parlait de tout. Et finalement, je m'amusais parce que ça m'amusait parce que quand j'en ai parlé très ouvertement, hein,
oui.
Même en Allemagne à mes copains. Hein, et d'un autre côté, on avait toujours l'impression que c'était comme si c'était qu'un phénomène français. C'est incroyable ce truc. Et finalement, c'était comme si, ben non, ça fait partie du film français, des films de Chabrol, Tribiot, etc. Quoi. C'est trop drôle. Mais c'est pas la réalité, quoi. Hein.
Ah, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas,
je ne sais pas.
Je ne sais pas. Je doute que cela soit un problème français, parce que aux Philippines, par exemple, aux Philippines, où des familles dorment dans le même espace, voilà tout.
Ouais. J'ai bien que tous les Allemands vont en Thaïlande pour des raisons différentes, pour les mêmes raisons. Donc.
Pas tous les Allemands, en tout cas. Mais
non, certains. Enfin, il y en a une grande partie quand même.
Mais
enfin bref, c'est comme si ils découvraient le monde quand je leur en parle. Mais je le fais avec bon escient, enfin je l'ai fait tard, hein. Mm-hmm. Rien que pour qu'on prenne conscience, et surtout moi pour me libérer, parce que finalement je voulais sortir de cette peau, de ce film que je me tourne. Je suis en permanence une actrice d'un film. Tout ce que je fais, c'est un film, quoi. Je suis actrice. Mm-hmm. J'adore d'ailleurs, hein, à propos.
Aujourd'hui, bon. Aujourd'hui encore. Aujourd'hui encore.
Jusqu'aujourd'hui, je terminerai pas mon film. Mon film n'est pas fini.
Mais est-ce que aujourd'hui, lorsque vous évoquez ce film, vous avez cette impression de devoir évacuer cela de votre esprit,
devoir. À mon avis, c'est évacuer parce que je l'analyse très bien, quoi.
Mm-hmm.
Je vois tout. Le seul truc, c'est le reste d'amnésie. Quand est-ce que ça a commencé, quoi ?
On va continuer à justement évoquer cela avec vous, voir combien de pourquoi ce film continue-t-il et surtout ce que cela vous procure. Ça va être l'info sur Europe 1. On se retrouve dans quelques instants, d'accord ?
D'accord.
À tout de suite.
À tout de suite.
Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 39-21, 50 centimes la minute. Leclerc.
Pour défendre le budget des Français, Leclerc a toujours répondu présent. Aujourd'hui, Leclerc renforce votre budget avec des offres sur de nombreux produits comme les soins du corps.
Et les promos, ça peut sentir très bon chez Leclerc. Puisque du 26 mai au 6 juin, le lot de 4 gels douche Tahiti Vanille de 250 ml chacun, avec 50% de réduction immédiate, est à 2,64€. Ça, c'est du budget renforcé. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Voir modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc.
Europe 1, il est minuit. Le journal de la nuit, Isabelle Minier.
Et l'application de traçage Stop Covid destinée à repérer la propagation du coronavirus sera disponible dès le week-end prochain si les parlementaires l'approuvent, c'est ce qu'assure le secrétaire d'État au numérique. Cette application a pour but de permettre à chaque utilisateur qui apprend sa contamination de prévenir ceux qu'il a croisés dans les deux dernières semaines précédentes afin qu'ils puissent prendre leurs précautions et un rendez-vous chez le médecin. Un débat et un vote sur le sujet sont donc prévus à l'Assemblée nationale puis au Sénat cette semaine. Sous la pression des oppositions, le gouvernement a finalement accepté ce vote, pourtant non obligatoire, car l'application sera basée sur une participation volontaire. Pendant les prochains jours, les soignants auront les yeux rivés sur le Ségur de la Santé. Cette semaine, pour repenser l'hôpital, sous la houlette de Nicole Nota, ancienne secrétaire générale de la CFDT, la crise sanitaire exige de nous de changer de rythme, a déclaré Édouard Philippe en préambule. Le Premier ministre qui a listé les chantiers avec déjà des promesses, Ève Roger.
Oui, Edouard Philippe a promis des choix forts, rapides et assumés. Nous voulons aller vite, a-t-il dit, pour dénouer les blocages du système. Évidemment, tout le monde de la santé l'attendait sur un point précis, la hausse des salaires pour les personnels hospitaliers. Et vous allez l'entendre, il n'a pas tari d'éloges sur les soignants en première ligne dans les hôpitaux pendant l'épidémie.
Je veux saluer, au nom du gouvernement, au nom des Français, les efforts individuels unanimement reconnus. Les journées et les nuits, dans l'épreuve, nous obligent. Ils ont révélé, s'il en était besoin, que certains niveaux de rémunération n'étaient pas à la hauteur d'un tel engagement. Cette reconnaissance se traduira, le président l'a dit, dans les rémunérations. Sur ce point, je le dis sans ambiguïté, la revalorisation sera significative.
Alors vous attendez comme moi la suite. Pour qui ces augmentations? Pour les infirmiers, les aides-soignants? Combien? Le Premier ministre n'a pas voulu donner de chiffres dès aujourd'hui. Édouard Philippe a aussi laissé la porte ouverte à l'assouplissement des 35 heures à l'hôpital. Ce n'est pas un sujet tabou, a-t-il dit. Il a confirmé aussi un investissement massif pour soutenir les hôpitaux, confirmant ainsi la promesse du président Macron. Mais pour avoir du concret, il va falloir attendre plusieurs semaines, jusqu'à la mi-juillet, le temps des négociations de ce Ségur de la santé qui ne fait que commencer.
Ève Roger, chef du service Société d'Europe 1. 90 morts à l'hôpital ces dernières 24 heures en France, mais le nombre de patients en réanimation deux semaines après la levée progressive du déconfinement est en baisse. Avec 1609 patients recensés, c'est 46 de moins en 24 heures. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, suspend temporairement les essais cliniques avec l'hydroxychloroquine par mesure de sécurité. Et ce, après une étude parue dans la revue The Lancet qui met en doute l'efficacité de ce médicament pour soigner les malades du Covid-19 et qui juge même son utilisation néfaste. Les Français, dans l'attente des modalités de la deuxième phase du déconfinement, on sera fixé jeudi après le Conseil de défense. Alors que pourrons-nous faire à partir du 2 juin? La limite des 100 km sera-t-elle maintenue? Les lycéens pourront-ils retrouver les salles de classe? Et quid des bars et des restaurants? Ceux situés en zone verte devraient pouvoir ouvrir la semaine prochaine. Les commerçants qui, eux, ont déjà pu rouvrir n'ont pas l'intention de brader leur stock dès le début des soldes. Ils n'ont rien vendu depuis deux mois. Ils aimeraient bien pendant quelques temps encore au moins écouler leurs produits à 100% du prix. Ils réclament donc le report des soldes qui devait théoriquement débuter le 24 juin. Sur cette question, l'exécutif doit se prononcer la semaine prochaine. Emmanuel Macron présentera demain le plan de soutien à la filière automobile durement éprouvée par la crise du coronavirus. Pour l'occasion, le chef de l'État se rendra dans une usine du groupe Valeo dans les Hauts-de-France. Auparavant, Emmanuel Macron s'entretiendra avec le PDG de Renault à l'Élysée, puis il réunira les acteurs de la filière automobile pour faire le point sur l'impact de cette crise et les moyens de s'en sortir. L'Olympique de Marseille a mis fin au suspense. L'entraîneur André Villas-Boas restera bien à l'OM la saison prochaine. On pouvait en douter depuis le départ du directeur sportif Zubizarreta, mais il sera donc là encore au moins pour une saison. La météo, Anissa Haddadi, et ce sera beau et chaud demain.
Oui, c'est ça, c'est très bien résumé, Isabelle. Pour demain, il va faire très beau, effectivement. Presque rien à signaler hein, pour demain. En tout début de journée, sur les Landes, les nuages et les entrées maritimes pourront résister dans l'après-midi. Donc, vous aurez une sensation de ciel un petit peu plus couvert sur les Landes et une sensation d'humidité partout ailleurs. Et le soleil brille dans un ciel complètement dégagé. Du nord jusqu'aux Alpes, en passant par les Ardennes, l'Alsace, la Franche-Comté, dans l'après-midi, le ciel se voile. Mais alors, c'est très léger. Hein. Ce sont vraiment des voiles d'altitude. Et sur les reliefs alpins et pyrénéens, quelques gouttes sont possibles en altitude seulement. Les températures, elles sont donc très agréables, avec 9 à 13 degrés au nord demain matin, jusqu'à 19 sur la Côte d'Azur. Et dans l'après-midi, ces températures gagnent encore quelques degrés et ça va être comme ça toute la semaine, avec 22 à Caen et Biarritz, 24 à Besançon et Clermont-Ferrand, 26 pour Bastia et La Rochelle, 27 à Paris et Marseille, 29 à Bordeaux, Agen et Perpignan et 30 degrés la maximale sera pour Nîmes demain.
La météo signée Anissa Haddadi. Je vous souhaite une excellente nuit à l'écoute d'Europe 1. Toujours en compagnie, bien sûr, d'Olivier Delacroix pour votre libre antenne.
Europe 1. Écoutez le monde changer. Yeah. Europe 1. 22h30, 1h. La libre antenne. Olivier Delacroix.
De 6 minutes, vous êtes toujours sur votre libre antenne qui vous accompagne ce soir en direct jusqu'à 1h du matin. Le temps passe vite car nous discutons, nous échangeons d'abord avec Aline et puis maintenant avec Martine. Martine qui nous évoque une période de sa vie particulière puisque voilà, cette jeune cet enfant a été abusé par son père très jeune, hein, en fait, puisque vous parliez d'amnésie, Martine. Hein,
oui.
Vous n'avez pas souvenir de l'âge
non.
auquel cela a commencé.
Non, aucun.
Beaucoup d'auditeurs réagissent à votre témoignage et se demandent justement ce que faisait votre mère dans tout ça.
Alors, elle était sans doute au courant pour... je ne voulais pas trop impliquer mes frères et sœurs, mais bon, pour les autres... Moi, c'était hors de question parce que j'étais son bébé et voilà quoi. J'étais son bébé et je suis restée son bébé. On a toujours une relation extrêmement fusionnelle jusqu'à la mort de mon père. Quand mon père est mort, évidemment, elle a été relativement déséquilibrée et nocive pour tout le monde. Et, mais moi, j'ai toujours été à ses côtés parce qu'en fait, on est très, très... Comment dire,
fusionnel,
fusionnel mais semblable.
D'accord.
Donc on a vécu la même vie, marin à droite à gauche, marin allemand, marin français. Donc c'était la même vie. Et j'ai presque une relation trop fusionnelle,
oui.
Jusqu'à dire que j'ai sa photo près de moi. Maman est décédée il y a quelques années,
oui.
et que sans elle, j'irai nulle part. C'est idiot, mais j'ai besoin d'elle, quoi. J'ai besoin de sa protection.
Mmh.
Voilà. Et je me dis qu'un jour, si je meurs, je veux absolument l'emmener avec moi. Il faut qu'on me mette la photo dans le truc, quoi.
Mmh. Quel impact cela a-t-il eu sur votre vie de femme?
Tout ça?
Oui.
Ah ben, pas terrible. Parce que la relation avec les hommes, c'était pas facile, quoi. C'est-à-dire que j'avais toujours le contrôle sur les hommes. En fait, je cherchais toujours des hommes qui étaient marginaux, un peu philosophes, les inaccessibles.
Oui.
Tout ce que les autres voulaient qu'ils n'obtiennent pas, quoi.
Mm-hmm.
Donc alors là, j'ai vraiment joué le jeu de la séductrice très française, enjouée, dominante, mais je ne savais pas, intellectuelle, hein, bref et tout. Je savais m'adapter complètement. Et par contre, j'avais le contrôle complet.
D'accord.
C'est moi qui tenais les fils de la chose, quoi.
Oui. Vous aviez besoin du contrôle total.
Ah, complet. Mm-hmm. Ah oui, complet, oui, oui. Mais d'un autre côté, je jouais les séductrices quand même. Hein. J'adorais le rôle. Là encore, j'étais dans un rôle.
Mm-hmm.
J'étais dans le super film, la meilleure actrice et tout. Mais d'un autre côté, bon.
Et lorsque vous évoquiez ce rôle... qui aujourd'hui perdure. Quel besoin de jouer ce rôle encore aujourd'hui, puisque vous m'avez dit avoir très bien analysé la chose.
Oui.
Quel besoin donc de... Pourquoi,
de jouer ce rôle?
Pourquoi ne pas revenir dans la réalité et d'être avec Martine?
La réalité, je ne la connais pas. C'est quoi la réalité? C'est ça le problème. Et le problème, un grand problème que j'ai, c'est que par exemple, j'attire énormément les gens... Parce que je suis très, très, comment dire, sociale. Non, en fait, je suis asociale d'un côté, je suis sociale. J'ai une drôle de manie. J'attire les gens. Ils me font confiance à fond la baleine. Et d'un autre, je joue le jeu pendant très longtemps. Et j'y crois en plus. Donc, je suis une très bonne confidente. On vient vers moi. Je ris. Je fais plein de blagues. Enfin, il y a de l'ambiance. Et puis, d'un autre côté. Si un jour on me déçoit une seconde, et ça prend du temps parce que je suis balance, donc je fais le pour et le contre, mais si on me déçoit une seconde, alors là je suis la mente religieuse, je les tue.
Mmh.
Donc je les quitte. Je les quitte et c'est pas beau en fait. Hein. Je les quitte, je suis brutale, mais avec élégance.
Mmh.
Mais d'un autre côté, je suis quand même le scorpion qui tue, quoi.
Vous avez ce besoin de faire du mal ?
Non, pas du tout.
Non.
C'est simplement qu'à partir d'un moment, du moment où j'ai l'impression qu'on vient trop près de moi et qu'éventuellement on pourrait découvrir en fait le film que je joue, hein. Aucune idée, je ne suis pas sûre. Hein. éventuellement, on pourrait découvrir cette femme instable
oui.
que je suis, en fait, en fond.
Mmh. C'est, voilà. c'est ça, la réalité, en fait.
Bah oui, c'est ça, la réalité. La réalité, c'est l'instabilité, quoi.
Mmh.
Je suis complètement instable. En fait, je suis très créative, j'écris, mais j'ai besoin de beaucoup de reconnaissance, quelque part, parce que tout ce que je fais, j'essaie de le montrer aux autres.
Mmh.
Donc, je peins, je fais de la musique, j'écris des comptines, tout ça. Mais j'ai besoin de reconnaissance, donc ça, c'est clair et net, c'est pas trop... Mais on m'admire pour tout ça. Mais d'un autre côté, j'aime bien les gens très longtemps, sauf mes vrais amis. Hein. J'ai quand même des très bons amis, très vieux, à qui je tiens. Et que, voilà. Mais par contre, tout ce qui est superficiel, oh bah, c'est la montre religieuse. Je les tue. Voilà.
Vous n'avez jamais été...
Tout ce qui devient nocif, tout ce qui devient nocif pour moi, non, je parle de nocif, hein.
Oui.
Je les tue.
Vous n'avez
ça,
jamais...
pas du tout ce...
Vous n'avez jamais été démasqué?
Non. Mmh. Oui, c'est ça, c'est ça le problème. Je ne veux pas être démasqué. Mais en fait, c'est quoi démasquer si je ne sais pas ce qu'il y a derrière
démasquer,
le masque?
Démasquer veut dire peut-être
oui,
je vois.
Ouais,
un homme qui se serait vraiment rendu compte de cette instabilité, en fait.
Non, avec les hommes, c'était compliqué parce que c'était toujours des marginaux. En fait, toujours des gens qui aimaient leur propre liberté. Et comme je ne voulais pas me fixer à qui que ce soit, ça c'est vraiment ça c'est la ligne complète de ma vie. Donc, je n'ai pas rencontré beaucoup d'hommes.
Mm-hmm.
Mais ceux que j'ai rencontrés, c'était toujours des gens qui avaient un besoin extrême de liberté. Donc, je savais avec eux, je peux y aller. Puisque de toute façon, ils ne vont pas me garder. Et moi, dans mon fort intérieur, je suis comme ça aussi. J'ai un besoin énorme de liberté. Je me suffis à moi-même, hein, quelque part. Le confinement, moi, ça ne me fait rien du tout. Parce que j'ai une vie intérieure très intense. Mais j'ai toujours eu ce genre d'homme, quoi. Hein. C'est de la folie, quoi. Donc, voilà, je suis arrivée là... Mais je ne regrette pas, hein, je regrette pas le chemin de vie, ni la découverte d'une nouvelle culture, ni d'avoir donné des cours pour apporter ma culture en Allemagne, c'est ce que j'ai fait. C'est un vrai bonheur, quoi. Puis j'ai fait de beaux enfants, donc j'ai quitté mon mari parce que, bon, lui, il était très pécunier, il m'énervait avec son fric et tout. Et il était un peu, il était aussi raciste, il est devenu raciste à la fin.
Oui.
Donc là, je me suis dit, alors là, je prends mes clics et mes claques et je me casse, parce que moi, j'ai fait des beaux enfants européens, et là, ça ne fonctionne plus du tout. Donc, il y a toujours une force quelque part. Donc, j'ai pris la force de dire, je me casse. Mes enfants sont dans de bonnes mains, ils étaient sortis de la maison, donc c'était le moment de partir, quoi. Donc, j'ai recommencé une nouvelle vie.
L'une de nos auditrices nous écrit oui. qu'elle a été, elle aussi, victime d'actes incestueux.
Oui.
Et qu'elle a longtemps eu l'impression de jouer un rôle, comme si l'acte incestueux avait figé en elle l'enfant apeuré et troublé et triste qu'elle était. Cette part d'elle-même, dit-elle, vit encore en elle et projette sur le monde ses angoisses et pour un rien. Est-ce que,
moi c'est pareil.
Oui.
Oh oui, je suis très disons que j'ai des paniques, dès qu'il y a quelque chose qui a l'air de d'arriver, même si c'est un orage, hein, je suis paniquée, j'anticipe le danger, ça c'est l'horreur, hein, j'anticipe le danger et donc je vis avec ce danger pendant longtemps, et puis tout d'un coup, alors là c'est là que je me demandais si j'étais pas bipolaire parce que on se dit ces extrêmes là, ça fait bizarre quand même. Mais dès qu'il y a un danger dans l'air, oulala, moi je suis en alarme, hein, complète.
Vous avez fait une thérapie ou en tout cas
oui,
une psychothérapie?
Oui, j'ai fait une thérapie, oui. Mais c'était par rapport à mon couple. C'était en France, sous hypnose.
Oui.
Et j'ai juste découvert que ma belle-mère était une femme très dominante et que c'était elle qui me gâchait la vie. Bon, bref, mais c'était tout. J'ai demandé pour mon père et tout ça. Et mon psychologue, le psychologue de l'époque, m'a dit non, c'est pas ton truc, c'est pas ton père en fait, parce que j'analysais quand même bien la situation, mais dans l'hypnose, il a pas découvert que c'était mon père.
Oui, mais peut-être.
La dominance d'une femme sur ça, c'est la dominance des mères sur les fils.
Ouais.
Bon, c'est fascinant. Hein.
Oui, oui.
Et c'est même.
C'est fascinant et très répandu.
Mmh.
Très répandu.
Oui, mais très nocif aussi. Hein.
Valérie, au 739-21, nous parle de dissociation, qui est l'une des conséquences des crimes sexuels. Est-ce que cela vous parle aussi ?
Dissociation, qu'est-ce qu'elle veut dire ?
Je pense qu'elle parle du rôle que vous jouez et de la réalité que vous ne voulez pas
affronter. Ça n'a rien à voir avec la réalité, quoi. Mmh. Oui, il y a une dissociation, oui, absolument. Ah, oui. Il y a deux rôles. Il y a le rôle de moi avec moi-même chaque jour,
oui.
C'est-à-dire avec mes angoisses, mes doutes, etc. Et dès que je sors, je joue mon rôle. Voilà, je prends un costume, quoi. Mais ça m'amuse, hein. Ça m'amuse, mais quand je rentre, effectivement, je me retrouve avec...
Vous devez être fatiguée, non ?
C'est-à-dire que... Fatigué, ben oui. Non,
non, mais je ne sais pas. Je me dis que lorsqu'on on joue un rôle en permanence, mais peut-être.
Ah oui, c'est fatigant, c'est sûr. Ouais.
Je me disais que c'est vous avez souvent des hommes qui trompent leur femme, sont exténués parce qu'ils jouent un rôle, ils mentent en permanence.
Ouais.
Et il y a quelque chose de sûrement d'épuisant à ne pas être, vous voyez, en paix.
Mais comment être en paix puisqu'on ne se connaît pas ? On ne connaît pas le personnage. Moi,
Moi, à vous écouter, je pense que vous vous connaissez très bien. Je pense que vous vous connaissez très bien. Il y a quelque chose de l'ordre d'affronter une bonne fois pour toutes cette réalité et finalement s'apercevoir que cette dissociation, avec le temps qui a passé, vous a sans doute... ramener au port, ramener sur la rive, et que la femme que vous êtes aujourd'hui n'est plus très loin de cette réalité. Vous voyez, je pense vraiment en vous écoutant que...
Oui, je pense aussi. Mais la question est quelle femme suis-je vraiment, quoi.
Je pense que vous êtes la femme. Je pense que vous êtes la femme que vous avez très bien décrite là. Que vous êtes cette femme créative, en même temps
oui, ça,
que...
Ça me va, ça me
Oui,
ça
mais vous
parle.
Êtes en même temps une femme fragile, avec ses doutes, avec ses angoisses, avec aussi une réelle analyse, une analyse très, très cartésienne de ce que je veux. Je veux l'inatteignable, je veux tout ce que tout le monde veut. Et c'est moi.
Qu'est-ce que vous me dites là ?
Et c'est moi qui l'aurai.
Je veux l'inatteignable, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire je veux tout ce que les autres n'ont pas pu avoir. Vous me l'avez dit tout à l'heure.
Oui, ça c'était pour les hommes.
Ben oui, mais c'est une sacrée, c'est un sacré bout de vie les hommes,
ensemble,
non ?
Oui.
C'est les hommes, c'est
oui,
votre mari, c'est
bah oui, l'inatteignable
vos
quand
enfants.
On ne connaît pas ce qu'aurait pu être la vie différente. C'est clair que c'est l'inatteignable, quoi. Oui, oui. Mais comment trouver ? Ah, bah, je peux pas dire que je suis pas calme. Le problème, c'est de savoir quand est-ce que cette histoire se finira, quoi. Voilà. Mais en fait, c'est déjà les trois quarts. Je l'ai déjà analysé, donc je me sens sereine. Hein, c'est pas le problème. Hein. Surtout par ma créativité. Donc là.
J'étais en train de me demander moi si lorsqu'on a vécu une telle chose qui est à contre nature. Qui est quelque chose qui est très grave, en fait, parce que c'est une blessure infligée à un âge où on n'a pas à recevoir ce type de blessure à cet âge-là, surtout, même plus tard, hein, lorsqu'on parle avec des femmes, qui ont été violées. Ce que j'entends par là, c'est que lorsqu'on est enfant, on doit être vraiment nager dans le bonheur, dans l'insouciance. Et donc, cette blessure-là est d'une gravité extrême. Et j'étais en train de me demander, lorsque vous disiez « ça se finit quand ?», est-ce que ça se finit un jour ?
C'est-à-dire que j'en souffre pas vraiment. par mon aspect clownesque, je vais y arriver jusqu'à la fin, hein, c'est pas le problème, hein, je continuerai mon rôle, hein, et ça m'amuse. Donc tous les jours je me crée, inconsciemment, une nouvelle vie. Donc déjà je ris, je souris, je fais etc. Mais au fond, il reste toujours cette espèce d'empreinte non identifiée. Et qui restera jusqu'à la fin. Quoi.
Vous pensez qu'elle est non identifiée? Parce que moi, j'ai l'impression, en vous écoutant, qu'elle est parfaitement identifiée, cette blessure.
Elle est identifiée, mais il reste ce petit reste de savoir... En fait, non, c'est identifié, en fait.
C'est identifié, et je pense, en vous écoutant, hein, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été identifiées, et que lorsque vous évoquez la fin... hypothétique de cette histoire, et peut-être une histoire qui ne connaîtra jamais de fin.
Non, ça c'est clair.
Je tends plus vers cette option-là, parce que, comme je vous le disais il y a quelques instants, je pense que l'enfance volée, eh bien, ne reviendra jamais.
C'est le pire, quoi.
Elle ne reviendra jamais, et en étant adulte, on ne pourra jamais la rattraper.
Non, c'est clair.
Donc, c'est ce qui laisse sans doute ce mauvais goût, cet arrière-goût d'inachevé, en fait, lorsqu'on cherche à réatteindre une forme de bonheur ou de paix intérieure.
Parce que il manque un petit morceau du puzzle,
oui,
quoi.
Oui, exactement.
En fait, c'est rien de plus en ce qui me concerne. Un petit morceau du puzzle.
Et vous avez de la chance d'avoir été en mesure d'identifier beaucoup de choses, de l'analyser, et d'avoir quand même très enfant cette capacité à jouer ce rôle dont vous parliez, parce que
il fallait bien, mais
c'est une force, Martine.
Oui,
parce que bon nombre d'enfants n'ont pas eu l'énergie pour.
Oui, c'est sûr. Mais mes frères et sœurs m'ont toujours dit, toi tu étais forte, parce qu'un jour j'ai pris la décision de combattre le prédateur, et ce jour-là à 14 ans. Franchement, j'ai été forte, et en fait, c'est ce qui me tient à travers la vie et tous les événements de la vie, que ce soit divorce et tout. Quand je tranche, point. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un bien.
Ça n'a pas été le cas pour votre frère et votre sœur.
Pas forcément, non.
D'accord.
Mais bon.
C'est pour ça, vous voyez que j'évoquais...
Voilà l'histoire.
Voilà la possibilité pour les autres. Pour certains, pour d'autres, l'impossibilité.
Ouais, bien sûr.
Merci en tout cas, Martine, de vous être livrée ce soir.
Merci de m'avoir écouté.
Je vous en prie, c'était très intense.
Okay.
Je vous embrasse. Passez.
Moi aussi. À bientôt. À bientôt, c'est pas la peine, puisqu'on a parlé de tout. Mais en tout cas, je vous écoute tous les soirs, donc c'est parfait.
Très bien. Écoutez, à tout de suite alors.
À tout de suite.
Bonsoir.
Au revoir, merci.